VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
The United States will withdraw from the Paris Climate Accord.
Le président Donald Trump, hier après-midi à la Maison-Blanche, Le Monde aujourd'hui, édition spéciale du vendredi 2 juin 2017, consacrée en grande partie à la décision du président Trump de retirer les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Albertson.
Le président Trump a donc annoncé jeudi à la Maison-Blanche le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, assurant que cela s'inscrivait dans le cadre de la réalisation de ses promesses aux Américains. Timothée Donangmaï revient sur cette annonce.
In order to fulfill my solemn duty to protect America and its citizens, the United States will withdraw.
En vue de remplir mon devoir solennel de protéger l'Amérique et son peuple, les États-Unis vont se retirer de l'accord sur le climat de Paris, a déclaré le président Trump, qui a cependant assuré que Washington entamera des négociations pour réintégrer cet accord ou une initiative entièrement nouvelle, et cela sous des termes plus justes pour les entreprises des États-Unis, leurs travailleurs, leur peuple et le contribuable américain. Pour le chef de l'exécutif américain, l'accord de Paris sur le climat pénalise l'économie américaine sans imposer de réelles obligations aux plus grands pollueurs du monde. Le coût de sa mise en œuvre est tout simplement inacceptable pour l'Amérique, a-t-il dit. L'application de l'accord de Paris et les onéreuses restrictions énergétiques qu'elle impose aux États-Unis pourraient faire perdre à l'Amérique jusqu'à 2,7 millions d'emplois d'ici 2025, y compris 440 000 dans le secteur manufacturier, a affirmé Donald Trump. Le chef de l'exécutif américain estime que les États-Unis sont les leaders de la protection de l'environnement et selon lui, l'accord de Paris n'est qu'un moyen de redistribuer les richesses de l'Amérique au reste du monde. Les autres pays ne vont plus se moquer des États-Unis, a prévenu Donald Trump.
I was elected to represent the citizens of Pittsburgh, not Paris.
J'ai été élu pour représenter les citoyens de Pittsburgh et non ceux de Paris, a-t-il souligné. L'accord de Paris est un point de départ et non une fin en soi, et en sortir place les États-Unis à l'abri de futures violations de leur souveraineté et de massives obligations légales, a expliqué le président Trump sous un tonnerre d'applaudissements hier à la Maison-Blanche.
Et le maire de la ville de Pittsburgh, ville mentionnée par M. Trump dans son discours, a critiqué le président américain et s'est tourné résolument vers Paris plutôt que Washington. Hillary Clinton a reçu 80% des votes à Pittsburgh, a ajouté le maire Bill Peduto.
À l'instar de Pittsburgh, plusieurs dizaines de villes et d'États américains ont immédiatement organisé la résistance, promettant qu'au niveau local, l'Amérique continuerait d'avancer vers une économie verte.
De son côté, l'ancien président Barack Obama a regretté la décision de son successeur, Donald Trump. Cela n'entravera pas, a-t-il estimé, les progrès écologiques dans le reste du monde. Dans un communiqué, M. Obama a rappelé que l'accord de Paris n'avait pu voir le jour en 2015 que grâce au leadership américain sur la scène mondiale. Or, selon lui, le secteur privé a déjà choisi un avenir à faible carbone.
Au Congrès, les Républicains ont en général applaudi la décision du président, alors que les démocrates ont dénoncé un revirement scandaleux du leadership mondial de l'Amérique, selon les termes amers du sénateur de la Commission des affaires étrangères, Ben Cardin.
À l'étranger, les réactions à l'annonce de Donald Trump étaient unanimement négatives jeudi soir. C'est la consternation dans les 194 autres pays signataires de l'accord de Paris et nombreux sont les dirigeants qui ont manifesté leur déception. Jean-Roger Bion pour les détails.
L'Allemagne, la France et l'Italie, dans une déclaration commune, ont dit regretter la sortie des États-Unis de l'accord climat, qui selon elles n'est pas renégociable. Mais les dirigeants de ces pays ont aussi, à titre individuel, dénoncé la nouvelle posture des États-Unis. Pour le président français Emmanuel Macron, M. Trump a commis une faute pour l'avenir de notre planète, car il n'y a pas de planète B. S'adressant en anglais aux Américains, M. Macron les a appelés à rendre sa grandeur à notre planète, « Make our planet great again », paraphrasant le slogan de campagne de Donald Trump.
Because wherever we live, whoever we are, we all share the same responsibility. Make our planet great again.
L'Union européenne et la Chine, réunies en sommet à Bruxelles ce vendredi, sont déterminées à porter le flambeau de la lutte contre le changement climatique après le retrait des États-Unis de l'accord de Paris. C'est ce qu'a promis quelques minutes après l'annonce américaine le commissaire européen à l'action pour le climat, Miguel Arias Canete, qui avait mené les négociations au nom de l'Union européenne à Paris. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a jugé gravement erronée la décision du président américain. La première ministre britannique, Theresa May, a déclaré jeudi au téléphone au président américain Donald Trump que l'accord de Paris sur le climat protège la prospérité et la sécurité des générations futures, a indiqué Downing Street. Le premier ministre canadien Justin Trudeau a fait part au président américain Donald Trump de sa déception. Stéphane Dujarric, porte-parole des Nations Unies, a fait savoir que le secrétaire général Antonio Guterres fait confiance aux villes, aux États et aux entreprises aux États-Unis pour continuer avec d'autres pays à œuvrer en faveur d'une croissance économique durable et à faible émission de carbone qui créera emplois de qualité et marché et assurera la prospérité au XXIe siècle. L'on retiendra aussi les réactions du Danemark, du Brésil, de l'Argentine, du Mexique, des îles Fidji, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, toutes négatives à la décision de M. Trump et favorables à la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le changement climatique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Comment a-t-on réagi en Afrique à la décision du président Donald Trump? Claire Morin-Gibourg a joint le président de l'ONG Carbone Guinée, Ibrahima Sorisila.
C'est une grande tristesse pour moi et je sais que avec tous les militants qui protègent l'environnement, c'est une grande tristesse.
Qu'est-ce qui vous inquiète particulièrement?
J'ai peur l'effet domino, que d'autres pays ne demandent leur retrait à cet accord.
Quelles conséquences cela va-t-il avoir dans le monde et plus particulièrement évidemment pour l'Afrique, selon vous?
Nous savons que l'accord de Paris était un élément d'équilibre entre les pays développés et les pays sous-développés. Et Donald Trump a fait cas à plusieurs fois et sur le fonds vert qui pouvait aider certes ici les pays africains à faire un développement sombre en carbone. Du coup, avec ce retrait, nous ne savons pas où mettre la tête parce que souvent dans les discussions, le gros mot c'était quoi? Comment les pays africains pouvaient trouver des fonds nécessaires pour un développement en sombre carbone.
Est-ce que vous ne pensez pas, comme le président Obama l'a dit ce soir, que l'accord de Paris peut rester plein et entier avec les autres pays qui l'ont signé?
Oui, ça c'est important parce que aujourd'hui Donald disait qu'il faut renégocier cet accord, mais il va trouver quel partenaire pour s'asseoir et négocier avec lui. Et cet accord déjà avec 192 ou bien 194 signataires, déjà et avec ou sans Donald Trump, l'accord de Paris va évoluer. Et ce qui est important, il y a aujourd'hui beaucoup d'opportunités vertes qui se sont créées. Les gens ont su, oui, réellement, et il peut avoir une croissance verte partout dans le monde entier.
Alors vous êtes président de l'ONG Carbone Guinée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que vous attendiez de cet accord et quelles conséquences ce retrait va-t-il avoir pour vous?
Étant une ONG nationale qui se trouverait ici dans un pays en développement, nous savons que ce retrait, comme on le dit souvent, on ne veut pas qu'il y ait un effet domino, que beaucoup de pays aussi se disent oui réellement qu'il faut renégocier cet accord. Ce qui n'est pas vraiment aimable pour nous.
Ibrahima Sorisila, président de l'ONG Carbone Guinée.
Autre réaction africaine, celle de l'ancien ministre de l'Environnement du Sénégal, Ali Haïdara.
Ce qui me préoccupe, c'est que l'Amérique n'est pas rentrée dans les préoccupations environnementales de la planète. Donc, si elle en sort, elle n'est jamais rentrée dedans. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on reste très dedans parce que pour respecter les accords de Paris, on a mis à peu près 30 ans pour avoir ces accords-là. Et voilà qu'en 5 minutes, on en sort. Mais en tout cas, pour les respecter, cela nécessite des contraintes économiques très importantes. Et si l'Amérique en sort, cela veut dire qu'elle va avoir un avantage économique. On a mis une vingtaine d'années pour trouver des accords et en 5 minutes, on veut en sortir. C'est toujours le même scénario. Quand vous avez une multinationale qui fait un dégât concernant l'environnement, il y en a beaucoup d'exemples, hein, en Inde, partout dans le monde, des pétroliers qui échouent, qui causent des dégâts écologiques extrêmement importants. On met des années et des années en justice avant de dédommager l'environnement ou les gens concernés. Contrairement à ça, quand c'est les multinationales qui, elles, veulent une loi ou veulent être protégés, c'est tout de suite que ça se fait. C'est toujours l'éternel problème qui revient. Moi, ce que je voudrais souligner, c'est que les accords de Paris sont une contrainte économique pour les pays qui veulent les respecter. Si les États-Unis ne veulent pas les respecter, ça veut dire qu'ils vont avoir un avantage économique sur les autres pays. Donald Trump est un businessman.
Justement, le président Trump dit justement qu'il y a des pays comme la Chine et l'Inde qui ne respectent pas tellement ces accords et qui ont ainsi un avantage économique sur les États-Unis.
Oui, oui, mais moi je suis préoccupé par l'Afrique. Nous, on a nos populations de jeunes qui s'en vont vers l'Europe parce qu'on n'a plus de ressources. Nos ressources sont pillées par des multinationales, pillées par des mafieux, pillées par des trafiquants. La pluviométrie est déréglée à cause des conséquences du réchauffement climatique.
C'était Haïli Haïdara, ancien ministre de l'Environnement du Sénégal. Écoutons à présent Patrick Bonnet, militant de Greenpeace Canada, joint à Montréal.
C'est certain que M. Trump, au lieu de montrer l'exemple, décide d'aller complètement à contresens de ce qui se fait au niveau de la planète. On a près de 200 pays qui ont signé l'accord de Paris. Il y a une panoplie d'aberrations et de mensonges qui ont été dits par M. Trump. C'est exactement le contraire. En fait, au lieu de se tourner vers l'avenir, les États-Unis se recroquevillent sur eux-mêmes, seront de plus en plus isolés. C'est une décision complètement immorale, complètement inacceptable, qu'il a présentée sous un angle de vouloir renégocier parce que l'environnement lui tient à cœur, mais on le sait très bien. L'influence des pétrolières, entre autres, vient de faire bouger les États-Unis. On vient de perdre un joueur important, une locomotive dont on avait besoin. Il faudra que les autres pays en fassent davantage pour compenser ça. Donc, ce n'est pas une nouvelle surprenante, c'est une nouvelle décevante, évidemment, mais M. Trump ne réussira pas à arrêter cette transition énergétique qui a cours, ne réussira pas à saboter l'accord de Paris et les autres pays vont continuer.
Est-ce que cette annonce veut dire pour vous plus de militantisme?
Non seulement de la part de Greenpeace, il est certain que le président des États-Unis délaisse dans le fond la communauté internationale, les pays les plus vulnérables. Nous allons remonter aux barricades et on l'a vu aujourd'hui avec l'Europe et la Chine qui ont dit eux-mêmes qu'ils allaient continuer pour s'assurer que l'accord de Paris rentre en vigueur, qu'ils allaient redoubler d'ardeur, renforcer leur collaboration. Et c'est ce dont on va avoir besoin au niveau international. Et il n'y a que les États-Unis hein, qui ont dit qu'ils se retiraient. Tous les autres pays sont là. L'urgence est plus grande que jamais. Et il est certain qu'on va prendre tous les moyens pour arriver à faire en sorte que l'ensemble des pays soient responsables face à la crise climatique. Et ce n'est pas M. Trump qui va arrêter ça. Il y a des pays, les États, les villes qui sont là, qui continuent à lutter contre les changements climatiques. Et M. Trump s'isole aujourd'hui.
Le président Trump a déclaré que les États-Unis ont les plus grandes réserves énergétiques au monde et que cela ne fait pas de sens de ne pas les utiliser sous prétexte de respecter l'accord de Paris. Qu'en dites-vous?
Quand on regarde la réalité maintenant au niveau des États-Unis, il se crée plus d'emplois dans le solaire que dans la production pétrolière, gazière et charbonnière mis ensemble. On a une réalité où le prix des véhicules électriques est en chute vertigineuse. Même chose au niveau de la production du solaire. C'est moins cher de produire de l'électricité à partir du solaire qu'à partir du charbon maintenant au niveau international. Donc, M. Trump s'accroche à une économie qui n'existe plus. L'économie des combustibles fossiles est en train de disparaître. Même les manufacturiers de véhicules reconnaissent que d'ici à peine quelques années, le prix des véhicules électriques sera plus compétitif. Et ce qu'on voit comme croissance au niveau des États-Unis, quand on regarde, il y a près de 1000 chefs de compagnies aux États-Unis qui ont demandé, des investisseurs qui ont demandé à M. Trump de rester dans l'accord de Paris.
C'était Patrick Bonnet, militant de Greenpeace Canada, joint à Montréal. Merci à Anne Albertson, Timothée Donangmaï, Nathalie Barge, Jean-Roger Dion et Claire Morin-Gibourg pour cette spéciale sur la décision du président Donald Trump de retirer les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoulia. Le reste de l'actualité, Washington a sanctionné un général proche du président Joseph Kabila. Le Trésor américain a annoncé hier avoir ajouté sur sa liste noire financière le lieutenant-général François Olenga, en charge de la garde rapprochée du président Joseph Kabila. Le point avec Eddie Isango.
Le général François Olenga est, selon le communiqué du Trésor américain, accusé d'avoir sapé les processus démocratiques en République démocratique du Congo, en crise en raison du maintien au pouvoir de M. Kabila, malgré l'expiration de son mandat en décembre. Il est aussi reproché à cet officier supérieur d'avoir harcelé des opposants politiques, procédé à des arrestations et exécutions arbitraires et entravé l'action des observateurs de l'ONU. Les avoirs du général Olenga aux États-Unis sont, au terme de la décision, gelés et il ne pourra pas nouer des relations d'affaires avec des entités ou individus américains. Les complexes touristiques Safari Beach, situés aux abords de Kinshasa et placés sous son contrôle, est également visé. Il lui est également interdit de venir aux États-Unis. Ces sanctions tombent juste 3 jours après celles de l'Union européenne contre 9 autres responsables congolais.
La commission électorale rwandaise a décidé hier d'annuler une mesure controversée qui voulait contrôler les publications sur les réseaux sociaux des candidats à la présidentielle du 4 août. Le point avec Solange Niamoulissa.
Kalis Mbanda, président de la commission électorale nationale, a déclaré hier que les candidats pourront publier sur les réseaux sociaux sans soumettre à la commission électorale. Cependant, il a précisé que s'ils commettent des fautes, ils feront face à la législation et il n'a pas donné les raisons de ces revirements. La Commission électorale nationale avait publié une directive qui obligeait les candidats à l'élection du 4 août de lui soumettre au moins 48 heures avant les messages, photos et matériaux de campagne qu'ils voulaient publier sur les réseaux sociaux. La mesure avait soulevé un tollé. L'autorité de régulation des médias avait déclaré que ce n'était pas du ressort de la commission électorale. Les ambassades des États-Unis, d'Allemagne et de l'Union européenne avaient publiquement exprimé leur inquiétude. L'opposition rwandaise avait dit craindre que la mesure soit utilisée pour empêcher toute critique du régime du président Paul Kagame pendant la campagne électorale.
Le mot d'ordre de grève générale a été largement suivi hier à Al-Hoceima, dans le nord du Maroc. Les manifestations pour la libération du leader de la contestation, Nasser Zefzafi, se poursuivent au quotidien. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Les manifestants, scandant « Nous sommes tous Nasser Zefzafi », ont investi les rues d'Al-Hoceima après la rupture du jeûne du Ramadan. Le rassemblement s'est achevé peu avant minuit sans incident. Nasser Zefzafi a été interpellé lundi pour atteinte à la sécurité intérieure. Il dénonçait depuis des mois la corruption du pouvoir marocain et avait interrompu le prêche d'un imam dans une mosquée. La police a procédé à l'arrestation de plusieurs membres de son mouvement. Leur procès s'est ouvert mardi, mais a été reporté au 6 juin. Des sit-ins et rassemblements de solidarité ont été organisés dans d'autres villes du Nord et ailleurs dans le Royaume. Plusieurs manifestations ont été dispersées par la police à Rabat, Casablanca et Meknès.
Au moins 36 personnes ont péri par suffocation dans la nuit dans l'attaque d'un casino de Manille par un homme qui a incendié l'établissement avant de se suicider, affirment vendredi les autorités philippines qui ont écarté la piste terroriste. Une 50aine d'autres personnes ont été blessées, notamment dans une bousculade qui s'est produite quand les clients, pris de panique en entendant les coups de feu, ont tenté de fuir du Resorts World Manila, un hôtel casino près de l'aéroport international de Manille.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
quelques mini-dossiers maintenant avant de passer à la Minute Éco et au sport. En République démocratique du Congo, les FARDC viennent de lancer une opération de nettoyage du parc de Virunga autour du lac Édouard, à plus de 100 km au nord de Goma. L'insécurité est entretenue par plusieurs groupes armés de diverses ethnies et les rebelles hutus rwandais des FDLR depuis deux décennies. Cette situation cause des déplacements de population et la destruction de l'écosystème du parc national de Virunga, classé patrimoine mondial. Le reportage de notre correspondant dans la région, Charlie Kasereka.
Le parc de Virunga, l'un des plus anciens parcs d'Afrique, est créé depuis 1925 avec ses espèces rares comme les gorilles de montagne, et son écosystème était menacé depuis plusieurs années par des braconniers et des groupes armés Mai Mai et les FDLR. Pour le général Bruno Mandefou, commandant des opérations Sokolade dans le sud du territoire de Lubero, l'objectif est de mettre fin à l'activisme de tous ces groupes armés qui tracassent la population civile et l'écosystème du parc de Virunga.
La présence de tous ces groupes armés, Mai Mai ou les FDLR dans le parc national de Virunga, nous devons les mettre hors d'état de nuire puisqu'ils détruisent l'écosystème. Le problème de Mai Mai, surtout le sud de lac Édouard, ça causait plus de problèmes. C'est là où nous voulons maintenant mettre fin de tous ces bandits qui sont en train de déstabiliser la zone et la destruction surtout de l'écosystème qui est notre parc et patrimoine national et patrimoine commun de l'humanité.
Dans la foulée, les villageois qui subissent les tracasseries de ces groupes armés interethniques veulent la paix pour cultiver leurs champs et vendre leur récolte. Kavira à la vingtaine est vite rentré du champ après les premières tirs d'obus des FARDC. Ici, dans les territoires de Rutshuru, la situation sécuritaire reste volatile, avec souvent des incursions des groupes armés dans des villages éloignés des positions militaires FARDC pour rançonner la population et se ravitailler. La dernière tension interethnique entre Hutu et Nandé remonte d'il y a un mois, après avoir découvert 5 corps sans vie le matin du 29 avril dernier. Charles Kasereka depuis Nyamilima, à plus de 90 km au nord de Goma, pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma. En RDC sur 87.2 FM.
Au Mali, les 12 membres de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite ont prêté serment au cours d'une cérémonie officielle à la Cour suprême. La mise en place de cet office permettra, pour citer l'avocat général Chérif Koné, l'opérationnalisation de la lutte contre la corruption. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré revient sur la mission et les objectifs de cette nouvelle structure.
L'Office central contre l'enrichissement illicite va œuvrer pour l'instauration d'une gouvernance saine, juste et transparente. Moumouni Guindo, président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite.
L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite est un service que l'État du Mali vient de créer pour réduire, sinon éradiquer l'enrichissement illicite à travers des faits de détournement des deniers et des biens publics, à travers la corruption et toutes les infractions qui portent atteinte à l'intégrité du bien public. C'est donc un service de lutte contre l'ensemble de ces méfaits qui portent atteinte au bien. C'est une structure chargée de la prévention. C'est la première fois qu'au Mali, une structure va être chargée de prévenir. Et donc cette prévention va consister en des actions de communication, d'information, de sensibilisation et d'éveil de conscience afin de réduire les cas d'atteinte au bien public.
L'Office, à la différence des autres structures de lutte contre la corruption et la délinquance financière, a une nouvelle méthode d'intervention.
Nous ne ferons pas un contrôle orienté sur une structure de façon générale, mais plutôt un contrôle qui vise spécifiquement des personnes nommément désignées en raison des biens que ces personnes possèdent. Et il s'agit pour nous de réunir des éléments permettant d'asseoir des présomptions et il appartiendra dès ce moment-là à la personne concernée de se justifier. Cette démarche également est innovante et n'existe dans l'attribution d'aucune structure déjà existante.
Parmi les 12 membres de l'Office, 3 sont désignés par le président de la République. Ils sont tous des magistrats. Il y a des représentants de la police, de la gendarmerie, le secteur privé est représenté, tout comme le monde des finances et la presse.
Nous sommes confiants, nous avons le soutien des autorités, nous souhaitons que ce soutien se poursuive, et notamment dans le sens de la mise en œuvre de l'ensemble des textes, en particulier la sanction de la non-déclaration. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, 1er juin 2017, il y a une période de 90 jours qui est impartie à l'ensemble des fonctionnaires assujettis pour déposer auprès de la Cour suprême leur déclaration de biens. Le fonctionnaire qui, au bout de ces 90 jours, ne dépose pas sa déclaration doit être sanctionné et cette sanction, c'est la révocation.
En cas de non-respect de sa méthode de saisine, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite peut sévir. Moumouni Guindo, président.
Et cette révocation a pour conséquence d'interdire à l'intéressé d'exercer une fonction similaire pendant les 5 années à venir. Nous comptons donc beaucoup sur les autorités pour nous appuyer dans la mise en œuvre de cette disposition qui va rendre définitivement l'Office crédible et tous les citoyens doivent se sentir bénéficiaires des actions de cette structure.
La cérémonie de prestation de serment lance officiellement les actions de l'organe. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Minute Écho, Claire Morin-Gibault.
Au Burkina, la ligne électrique Ouagadougou-Waïgouya est entrée en fonction grâce à un appui de 12 milliards de francs CFA de l'Agence française de développement. Selon le ministre de l'Énergie, Alpha Oumar Dissa, cette ligne va bénéficier à Waïgouya et à une bonne partie de la région du Nord. Cette infrastructure va également réduire les charges d'exploitation de la Sonabel en minimisant les pertes de production, de transport et de distribution en amenant l'énergie vers les régions les plus reculées. Le Premier ministre ivoirien est arrivé hier à Paris, première étape de sa campagne pour promouvoir le prochain Eurobond prévu pour juillet. Amadou Gon Coulibaly va tenter de rassurer les investisseurs sur la capacité de résilience de la Côte d'Ivoire face à la volatilité des cours du cacao. Les prochaines étapes sont Francfort, Munich, Londres, New York et Boston. Au Mozambique, la compagnie italienne d'hydrocarbures Eni a officiellement lancé hier à Maputo son méga projet gazier dans le nord du pays. Avec un investissement de 8 milliards de dollars, le Mozambique espère que ses immenses réserves de gaz découvertes depuis 2010 vont faire du pays un futur Qatar africain.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Coupe du monde des moins de 20 ans, fin de parcours pour le Sénégal.
Oui, une défaite 1-0 en toute fin de match face au Mexique en 8e de finale. Il s'agissait d'une opposition entre les deux plus mauvaises attaques parmi les pays qualifiés pour le second tour. Ce fut un match terne où les Lionceaux ont joué à 10 après le carton rouge reçu par Alungay. Les Aztèques qui ont donc accentué leur domination jusqu'à la 89e minute de jeu et le jaillissement victorieux de Ronaldo Cisneros. Les Lionceaux de la Teranga qui rentrent donc à Dakar. Qualification en revanche des Américains pour les quarts de finale après la gifle infligée aux Néo-Zélandais 6-0. Dans le duel européen de la journée, l'Italie s'impose contre la France. Les Italiens rencontreront la Zambie en quart de finale. On rappelle Idrissa que la Zambie, c'est le dernier représentant africain de cette compétition.
Yaya Touré reste à Manchester City.
Le milieu ivoirien de 34 ans, dont le contrat expiré cet été, a prolongé d'un an avec Manchester City, où il est désormais lié jusqu'en 2018. Annonce du club de Première Ligue. Je me suis dit que mon périple à City n'était pas fini. Quand j'ai reçu un appel du directeur sportif, puis parlé à l'entraîneur, j'ai été très heureux, a réagi Yaya Touré, quadruple ballon d'or africain, arrivé en 2010 chez les Citizens. Avec City, Yaya Touré a notamment remporté 2 fois la Première Ligue en 2012 et en 2014. Il a inscrit 81 buts sur 299 matchs sous ses couleurs.
Autre gros transfert en Angleterre.
Le Benfica Lisbonne et Manchester City sont parvenus à un accord pour le transfert du gardien brésilien Ederson Moraes, qui rejoindra l'équipe de Pep Guardiola pour 40 millions d'euros. Le montant de l'opération fait de ce joueur de 23 ans le gardien de but le plus cher de l'histoire, après Gianluigi Buffon, acheté par la Juventus Turin à Parme en 2001 pour un peu plus de 52 millions d'euros.
La vidéo plébiscitée par la FIFA.
L'arbitrage vidéo que la FIFA espère introduire lors du Mondial 2018 est bon pour l'honnêteté dans le football, a estimé hier Marco van Basten, l'ancienne gloire du football néerlandais, également responsable du développement technique de l'instance. Le board a autorisé en mars 2016 l'arbitrage vidéo à titre expérimental. En avril cette année, Gianni Infantino, le président de la FIFA, a assuré que cette nouvelle technologie serait utilisée lors du Mondial 2018, car nous n'avons que des retours très positifs, selon lui. Et puis, Idrissa, l'info sportive de la nuit, le grand rendez-vous NBA, c'était cette nuit, avec le premier match de la grande finale entre Cleveland et Golden State.
Et Golden State continue de fasciner. Les Warriors mènent une victoire à 0 face aux Cavaliers de Cleveland. dans la finale NBA après leur succès 113-91 dans le match numéro 1 jeudi à Oakland en Californie. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anne Albertson pour la mise en onde et le suivi de l'actualité. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.